Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibault avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au Mali, l'armée confirme la mort d'Abou Houzefa, chef terroriste et haut responsable de l'État islamique. Le président français Emmanuel Macron exhorte le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à retirer ses forces de la RDC. Le gouvernement britannique veut expulser vers le Rwanda 5700 demandeurs d'asile avant fin 2024. L'ancien président et candidat Donald Trump, condamné pour outrage et menacé d'incarcération à la reprise de son procès à New York. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. L'armée malienne dit avoir tué un haut responsable du groupe djihadiste État islamique au Sahel dans la région de Ménaka, dans le nord-est du Mali. L'annonce a été faite par l'état-major malien et la télévision publique. Plus de précisions avec Yacouba Ouedraogo.
L'armée malienne vient d'éliminer ce dimanche 28 avril un ennemi de la paix en la personne de Abou Houzefa, dit Hugo, un chef terroriste, a annoncé la télévision publique ORTM. L'identification et les indices recueillis confirment la mort de Abou Houzefa, précise un communiqué de l'armée. Selon une source militaire, l'armée malienne et ses alliés russes ont identifié un campement djihadiste dans la région de Ménaka avant de s'attaquer à ce haut responsable qui circulait en moto avec ses hommes. Le djihadiste marocain est arrivé au Mali en 2012 au sein du Moujao, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, devenu l'État islamique au Sahel, menant des attaques dans la région dite des trois frontières. Selon l'état-major malien, la tête de Abou Houzefa avait été mise à prix à 3 400 millions, soit 5 millions de dollars, par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines au Niger. Le 4 octobre 2017, 9 soldats, 4 Américains et 5 Nigériens ont été tués dans une embuscade tendue par des djihadistes près de Tongo Tongo, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Mali.
Et toujours au Mali, 10 miliciens membres d'une coalition alliée du régime de Bamako ont été tués hier par des djihadistes dans le nord du pays. L'attaque a eu lieu lundi dans la localité de Kadji, située en périphérie de Gao, aux alentours de 13h30, selon une source policière malienne. La région de Gao est le théâtre d'affrontements réguliers entre les groupes djihadistes ou séparatistes à dominante Touareg et l'armée malienne, assistée par ses alliés russes et des groupes armés locaux. Un tribunal spécial parrainé par l'ONU a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président de Centrafrique, François Bozizé. La CPS, ou Cour pénale spéciale, une juridiction hybride composée à Bangui de magistrats centrafricains et étrangers, ont émis ce mandat dans le cadre d'une instruction sur de possibles crimes contre l'humanité commis par la garde présidentielle de M. Bozizé entre février 2009 et mars 2013, dans une prison civile et un centre d'instruction militaire à Bossombélé, dans le centre du pays. M. Bozizé s'était emparé du pouvoir en 2003 par un coup d'État avant d'être renversé 10 ans plus tard par des rebelles. Il est aujourd'hui à la tête de la principale rébellion centrafricaine et exilé en Guinée-Bissau depuis mars 2023. Le président congolais Félix Tshisekedi, en visite en France, a estimé ce mardi que son pays pouvait compter sur la France, qui sera à ses côtés pour trouver la paix dans l'est de la RDC, en ajoutant qu'une lueur d'espoir pointe à l'horizon à l'issue d'une rencontre à Paris avec Emmanuel Macron. John Lyndon.
Ce qui a le plus retenu notre attention lors de cette rencontre, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais pour trouver une issue au conflit qui ravage l'est de la RDC, a affirmé Tshisekedi à Paris, et de poursuivre, on peut compter sur la France à nos côtés pour trouver la paix dans l'est. Le président français Emmanuel Macron a lui exhorté le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles congolais du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo et à retirer ses forces du pays. La France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse commune avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Ce dernier a par ailleurs dénoncé lundi soir l'ignorance de l'injustice subie, selon lui, depuis 30 ans par le peuple congolais face aux velléités prédatrices contre son pays. Emmanuel Macron a appelé la semaine dernière Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame à la reprise des discussions et a demandé le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Cette visite de Félix Tshisekedi en France intervient plus d'un an après celle houleuse à Kinshasa du président Emmanuel Macron.
Le gouvernement britannique affirme qu'il espère expulser vers le Rwanda. D'ici la fin de l'année, un groupe déjà identifié de 5700 demandeurs d'asile. Cette déclaration intervient après l'adoption mardi dernier de la loi britannique controversée censée décourager les traversées illégales de la Manche. Nous faisons le point avec Nanit Talani.
Selon le ministère britannique de l'Intérieur, Kigali a accepté en principe d'accueillir 5700 demandeurs d'asile sélectionnés parmi les milliers de personnes arrivées illégalement au Royaume-Uni par la Manche entre début janvier 2022 et fin juin 2023. Le ministère de l'Intérieur ajoute que sur les 5700 demandeurs d'asile ciblés, 2143 continuent de se signaler au Home Office et peuvent être identifiés afin d'être placés en détention en prévision de leur expulsion. Le ministère de la Santé assure que Londres travaille à localiser où qu'ils se trouvent les autres migrants illégaux pour les expulser vers le Rwanda. En vertu de la loi qui a déjà été adoptée au Parlement et a reçu le sceau royal, Londres compte commencer les expulsions de ces migrants vers Kigali d'ici juillet. Adossée à un nouveau traité entre Londres et Kigali, la nouvelle loi vise à expulser des migrants arrivés illégalement d'où qu'ils viennent vers le Rwanda qui examinera leur demande d'asile. Quelle que soit l'issue, ils ne pourront pas retourner au Royaume-Uni. Ce pays tente également de réduire l'immigration légale qui a atteint, d'après son premier ministre Rishi Sunak, des niveaux insoutenables et injustes.
Au Sénégal, le gouvernement a ordonné un arrêt de toutes les constructions en cours sur le littoral de Dakar. Le nombre de chantiers en bordure de mer a explosé malgré le fait que les défenseurs de l'environnement dénoncent ce qu'ils appellent une privatisation du bord de mer.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le juge qui préside les débats au procès de Donald Trump à New York a condamné aujourd'hui l'ex-président américain à 9 000 $ d'amende pour outrage au tribunal et l'a menacé d'une incarcération pour avoir violé son interdiction de s'en prendre aux témoins et jurés. Jean-Roger Bion.
Le juge a rendu sa décision devant Donald Trump à l'ouverture de l'audience ce mardi matin, alors que le procès au pénal de l'ancien président entre dans sa troisième semaine. Il a condamné l'ancien président à 1 000 $ d'amende par violation, 9 au total, soit le maximum permis par la loi. Le candidat républicain présumé à la présidentielle de novembre s'en est pris à son ancien avocat, Michael Cohen, qualifié de menteur en série. Mais il a aussi repris à son compte les propos de Jesse Waters, un animateur en vue de la chaîne préférée des conservateurs, Fox News, assurant sans preuve qu'ils sont en train de choisir des militants progressistes infiltrés qui mentent aux juges pour faire partie du jury. Donald Trump est prévenu que la Cour ne tolérera pas la poursuite de violations délibérées de ses ordres et que si cela est nécessaire et approprié, elle imposera une peine d'emprisonnement, peut-on lire dans la décision écrite du juge Juan Merchan. L'ancien président des États-Unis est poursuivi pour 34 falsifications de documents comptables qui auraient servi à dissimuler un paiement pour étouffer un potentiel scandale sexuel dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle de 2016.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé aujourd'hui le Hamas à accepter sans plus tarder la proposition de trêve avec Israël associée à une libération d'otages retenus dans la bande de Gaza que le mouvement palestinien affirme étudier. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui promis ce mardi que l'armée entrerait dans la ville de Rafah, la lisière sud de la bande de Gaza, avec ou sans accord de trêve avec le mouvement Hamas. D'autre part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément inquiet par la découverte de fosses communes dans les deux principaux hôpitaux de la bande de Gaza et a appelé à la tenue d'une enquête indépendante. En Haïti, le tout nouveau conseil de transition, mis sur pied après la démission du Premier ministre contesté, a un nouveau président, l'homme politique Edgar Leblanc-Fils. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie officielle retransmise en direct à la télévision haïtienne. Monsieur Leblanc-Fils aura un rôle de coordination au sein du conseil, investi la semaine dernière avec pour lourde tâche de tenter de rétablir l'ordre public dans un pays ravagé par les gangs. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
L'Afrique comptera 65% de millionnaires supplémentaires d'ici 10 ans, selon le rapport sur la richesse en Afrique en 2024, publié par la Société internationale de conseil en patrimoine Henley & Partners. 5 pays se taillent la part du lion des marchés de richesse. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Nigeria, du Kenya et du Maroc, qui représentent ensemble 56% des millionnaires du continent et plus de 90% de ses milliardaires. Les records du cours de l'or pèsent sur la demande globale, mais dopent le recyclage du métal précieux, des particuliers se délestant de leurs bijoux pour profiter des prix élevés. Depuis le début de l'année, le cours du métal précieux a pris plus de 13% pour atteindre le record historique de 2431,52 $ le 12 avril. Le G7 envisage 2035 comme la date cible pour la sortie du charbon. La réunion des ministres de l'énergie organisée par l'Italie, qui a assuré cette année la présidence tournante du G7, clôture ses travaux ce mardi près de Turin.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Georges Finidi est le nouveau sélectionneur du Nigeria.
Oui, la Fédération nigériane de football a nommé l'ancien international nigérian comme nouveau sélectionneur en remplacement de José Pesero. Le technicien de 53 ans a passé 20 mois en tant qu'adjoint de Pesero jusqu'au départ volontaire du Portugal de son poste après avoir conduit le Nigeria en finale de la CAN en Côte d'Ivoire en février dernier. Georges Finidi, qui compte 62 sélections avec les Super Eagles, fait partie de la génération dorée du Nigeria qui a remporté la CAN 1994 en Tunisie. Pour notre consultant sportif Amdinsi, le technicien nigérian devra maintenant prouver dans son nouveau poste.
C'est toujours une bonne chose de voir un ancien footballeur qui a marqué quand même le football africain par ses exploits sur le rectangle vert, de les voir à la tête d'une sélection nationale. Mais il faudra faire ses preuves, comme ce que Aliou Cissé a réussi avec le Sénégal.
Merci Amdinsi. Georges Finidi a pour mission de qualifier les Super Eagles pour la Coupe du Monde 2026, à commencer par les matchs contre l'Afrique du Sud à Ouyo et le Bénin à Abidjan en juin prochain. Le Nigeria occupe la troisième place du groupe C derrière le Rwanda et l'Afrique du Sud.
En Europe, les demi-finales allées de la Ligue des Champions débutent ce soir.
À suivre aujourd'hui, Bayern Munich, Real Madrid et demain ce sera l'autre demi-finale entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Ces demi-finales sont celles aussi des Africains avec le Maroc comme pays africain le plus représenté à ce niveau de la compétition, comme nous le dit Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca, au Maroc.
Entre le Bayern et le Real Madrid, ce sera une confrontation à distance entre Brahim Diaz du côté du Real et Nusair Mezraoui du côté du Bayern de Munich. L'autre demi-finale verra également la présence d'Achraf Hakimi avec le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund qui sera privé malheureusement des services de Sébastien Haller, l'homme qui a maintenu en vie le club de la Ruhr lors du quart de finale aller face à l'Atlético de Madrid.
Cyclisme avec le Tour du Bénin, l'Agab Azzedine s'offre la première étape.
Le coureur algérien de l'équipe Bike Aid devance au sprint l'Érythréen Abteb Joël, classé deuxième, et le Marocain Ashraf, qui a fini troisième. Cette première étape montagneuse a été courue ce mardi entre les villes de Bunkumbe et de Djougou, 125,800 km. L'Agab Azzedine partira demain de Parakou à Savaï en maillot jaune pour la deuxième étape, 156,420 km. Ils sont plus de 60 coureurs venus de plusieurs pays africains et européens à prendre part à ce Tour du Bénin qui va s'achever dans les rues de Cotonou ce samedi 4 mai.
Merci Yacouba. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Niger, les professionnels des médias et acteurs de la société civile s'inquiètent de la situation de la presse. Depuis lundi, le fondateur et directeur de publication du quotidien privé L'Enquêteur, Idrissa Soumana Maïga, est incarcéré à la maison d'arrêt de Niamey après la publication d'un article relatif à l'installation présumée par des Russes d'équipements d'écoute dans des bâtiments officiels à Niamey. Avant lui, un journaliste proche de l'ancien régime a été interpellé et gardé à vue à la gendarmerie. Le point des réactions avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Nous sommes inquiets pour l'avenir de la liberté de la presse.
Zabairou Souley est le président de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI.
Nous interpellons le CNSP, demander la libération de tous nos confrères et l'abandon de toute poursuite de tous les journalistes nigériens. Et ensuite aussi, interpeller le CNSP à créer les conditions de l'exercice de liberté de la presse au Niger, parce que jusqu'à présent, la loi 2010, elle est toujours en vigueur. Donc, nous interpellons donc le respect de cette loi pour faciliter le travail du journaliste au Niger dans le contexte d'insécurité et dans la situation actuelle que nous sommes.
Au niveau du cadre d'action des professionnels des médias du Niger, autres structures du secteur également, l'on est inquiet. Abdoulaye Issaka est un de ses responsables.
Il importe ici, pour Mega, tout comme pour notre confrère Ousmane Toudou, en tout cas de demander aux autorités de laisser les journalistes faire leur travail et de ne pas permettre aux juges, notamment nous adressons notre requête au niveau du CNSP pour dire que, effectivement, de laisser les journalistes continuer leur travail. La place des journalistes n'est pas en prison.
Plusieurs organisations de la société civile ont aussi exprimé leurs vives préoccupations face à cette situation. Souley Oumarou est le président du Forum pour une citoyenneté responsable, FCR.
La liberté de presse, en tout cas, est à la fois garantie au peuple, n'est-ce pas, donc l'opportunité de s'informer, de se cultiver. Donc lorsque justement la presse est bâillonnée, c'est tout le peuple qui est bâillonné, puisque le peuple manquerait en tout cas des voix qui porteraient haut justement ces problèmes, et il manquerait aussi d'informations nécessaires. Et par rapport à ce qui se passe, par rapport à la gouvernance, etc.
Dans un communiqué, Reporters sans frontières a dénoncé l'emprisonnement du directeur de publication de L'Enquêteur, l'organisation de défense des journalistes qui considère cela comme un nouveau signal alarmant pour la liberté de la presse au Sahel, demande sa libération. Pas encore de réaction officielle des autorités en place à Niamey sur cette situation. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24. La Guinée renoue avec les coupures d'électricité depuis quelques mois. Les habitants de Conakry, par exemple, manquent de courant électrique de 7h du matin à 19h au plus tard. Ces délestages ont des conséquences sur les activités des petites et moyennes entreprises. C'est un reportage de notre correspondant, Zakaria Camara.
Chaque jour, l'électricité de Guinée procède au délestage pendant la journée sur le réseau interconnecté de Conakry. L'ancienne Camara, photographe, fait face depuis quelques temps aux plaintes de ses clients.
Lorsque quelqu'un envoie son image chez vous, vous devez lui donner un rendez-vous. Et qu'il y a la coupure, et cela prend 2 à 4 heures de temps, obligatoirement, ce dernier va se qualifier de menteur. Lorsque le temps n'est pas bien géré, à cause des coupures du courant, vous perdez en revenu. Certains clients peuvent vous quitter à cause de ça et partir là où il y a le courant à tout temps.
Si la grande partie de la capitale est privée de courant électrique de 7h jusqu'au soir, un certain nombre de quartiers devra attendre minuit pour être connectés conformément au programme de desserte établi par EDG. Selon l'économiste Mohamed Camara, cette situation a des conséquences pour les PME, mais aussi pour l'État.
Quand on prend le manque à gagner que cela peut représenter, tant pour l'État en termes d'imposition que pour les sociétés, en termes de, par exemple, de perte de parcs de production, en termes de volume de vente, etc., ça représente des centaines de milliards.
Face aux enjeux liés au délai de livraison, certains entrepreneurs, à l'image de Mohamed Djakité, se tournent vers d'autres sources d'électricité. Mais malgré cette solution alternative, son restaurant tourne au ralenti.
Je paye le local à 3 millions de francs guinéens et mes employés qui étaient là aussi, la totalité du mois me revenait à 9 millions le mois, sans compter moi-même mes petites dépenses. Aujourd'hui, il est très difficile pour moi de pouvoir subvenir à ces besoins-là. Donc j'aimerais demander au président de voir nous qui avons les petites entreprises, nous sommes tous au chômage présentement.
Pour justifier le délestage, Électricité de Guinée évoque le manque d'eau impactant les barrages hydroélectriques, l'explosion survenue au principal dépôt pétrolier ayant entraîné la perte d'une centrale thermique à Corentie, mais aussi des pannes signalées au niveau des autres centrales thermiques. Des informations diffusées au quotidien, mais qui n'ont pas empêché des manifestations dans certains quartiers de la capitale. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Le Nigeria envisage de créer une police d'État dans les 36 États du pays dans le cadre des mesures visant à lutter contre les attaques de militants, les enlèvements massifs et les activités de banditisme qui ont ravagé le pays. Cette police d'État viendrait renforcer les effectifs de la police nationale qui compte plus de 300 000 membres et est débordée par les flambées de violence. Les Nigérians accueillent cette décision avec prudence. Reportage de Timothy Obiezu depuis Abuja, relaté par Thierry Kaoré.
Le soir du 14 octobre de l'année dernière, Latifa Ibrahim, étudiante nigériane dont nous avons changé le nom pour protéger son identité, rentrait chez elle, hors du campus, lorsque cinq hommes armés l'ont enlevée avec deux de ses camarades de classe dans la communauté de Gandou, au nord du Nigeria. Elle dit avoir entendu les cris et les luttes de ses amis alors qu'elles étaient apparemment violées par les ravisseurs.
Ils l'ont fait devant nous. Ils les ont violés devant nous. Même si nos yeux étaient couverts, nous avons été battus. Nous n'avons pas été bien traités.
Elle dit avoir eu la chance d'être épargnée par les violeurs. L'incident a été signalé à la police et aux autorités scolaires. Les trois jeunes filles ont été libérées 4 jours plus tard, après que leurs familles eurent versé séparément des rançons. La famille d'Ibrahim a versé 5 millions de naira, soit environ 3 400 $, aux ravisseurs pour obtenir sa libération.
Ma famille était stressée et inquiète, ce n'était pas facile. Surtout ma mère, elle était tellement bouleversée.
Les enlèvements contre rançon sont l'une des principales menaces qui pèsent sur le pays le plus peuplé d'Afrique, alors que la crise économique continue de s'aggraver. Pour résoudre ces problèmes, les autorités nigérianes ont décidé en février de créer des unités de police d'État pour renforcer les forces de police nationale. Chaque État nigérien sera habilité par la loi à coordonner et à gérer cette force si la loi est adoptée. La nouvelle législation doit encore être approuvée par le Sénat. Les Nigériens ordinaires estiment qu'il s'agit d'une bonne décision tant qu'elle est correctement appliquée. Simon Ibu et Francis Oparanozi, résidents d'Abuja, ont parlé du projet.
Les personnes qui constituent les forces de police sont les habitants de la région. Ils connaissent les coins et les recoins de ces endroits et ils seront capables de s'attaquer aux problèmes d'insécurité mieux que les étrangers qui sont affectés à l'État en tant que policiers.
Ils choisiront des gens de cette région. Nous connaîtrons nous-mêmes tout ce qui se passe dans cette région. Cela réduira beaucoup de choses. Mais le pire, c'est que les politiciens s'en serviront pour intimider leurs opposants.
La police nigériane est la plus mal notée des 11 institutions publiques étudiées l'année dernière par l'Afrobaromètre, un réseau de recherche panafricain. Des allégations de brutalité, d'extorsion et de torture sont fréquemment formulées à l'encontre des policiers, une accusation souvent contestée par la police.
manifestations sur les campus universitaires aux États-Unis contre la guerre à Gaza se poursuivent malgré les avertissements des dirigeants académiques et de nouvelles manifestations sont lancées. Voyons cela dans ce reportage de Natacha Mozgovaya dans un campement installé lundi à l'université de Washington à Seattle. Le récit est de John Linden.
Lundi, à l'Université de Columbia, où s'est déroulée la première des dizaines de manifestations organisées sur les campus américains, des manifestants pro-palestiniens ont défié l'ordre de quitter les tentes sous peine d'être suspendus. Sueda Polat, organisatrice étudiante à l'Université de Columbia.
Les étudiants et ceux qui les soutiennent ne seront pas effrayés et ne se disputeront pas. Il ne s'agit pas d'une violation des règles, il s'agit d'un mouvement. Et ils seront là aussi longtemps qu'il le faudra. Nous avons une grande communauté. Ils sont très résistants. Nous resterons jusqu'à ce que nous soyons déplacés par la force.
Sur la côte ouest, les manifestants ont installé un nouveau campement lundi à l'Université de Washington à Seattle, exigeant la fin de la guerre à Gaza et le retrait de toutes les actions de l'université en Israël. Le camp a reçu des tentes toutes neuves, des burritos gratuits distribués par les manifestants. Toutes les 20 minutes, on pouvait entendre des chants de soutien à l'université a planté plusieurs panneaux campés interdits dans le secteur des arts libéraux, connu sous le nom de quadrilatère, où les manifestants ont dressé leurs tentes. Mathieu Chabot est étudiant en mathématiques à l'Université de Washington et l'un des organisateurs du campement au sein de l'Union des étudiants progressistes.
Un morceau de bois ne nous dissuadera pas de rester solidaires de la Palestine. Nous sommes prêts à tout, mais en fin de compte, s'il y a des arrestations, ce n'est pas à cause des choix que nous avons faits. C'est un choix de l'administration de l'université, de la police de l'université de Washington et de la police de Seattle. Je suis prêt à prendre ce risque.
Certains membres du corps professoral ont fait valoir que l'administration de l'université n'aurait pas dû permettre la formation du campement. Le professeur Stuart Regess, qui enseigne l'informatique, espère que la manifestation n'ira pas jusqu'à l'intervention de la police.
Je suis un peu préoccupé par le fait que l'université les autorise à violer nos propres politiques. Je pense que si c'était un camp de White Lives Matter qui arborait des drapeaux confédérés et qui dérangeait les étudiants noirs qui passaient par là, je ne pense pas que ce serait autorisé. Je pense donc qu'il y a deux poids deux mesures dans le fait qu'ils autorisent cela. Mais je suis heureux que, jusqu'à présent, les choses se soient déroulées pacifiquement. J'espère qu'il en sera ainsi.
Les manifestants disent qu'ils ont l'intention de rester jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Une fois encore, Mathieu Chabot.
La première est de mettre fin à la pression des étudiants, du personnel et du corps enseignant pro-palestinien. La deuxième est d'exiger que cette université se désengage matériellement d'Israël. Et la troisième est qu'elle coupe ses liens avec Boeing.
L'entreprise aérospatiale, dont les usines sont situées dans l'État de Washington, a collaboré avec Israël au développement de son système de défense antimissile Arrow 3, qui a récemment réussi à intercepter des missiles balistiques tirés par l'Iran contre Israël. Les partisans d'Israël demandent pourquoi les manifestants n'abordent pas le sujet du Hamas et des otages qu'ils gardent à Gaza. Outre l'appel au cessez-le-feu, les messages des manifestants varient lorsqu'il s'agit d'une solution à long terme. Certains espèrent un futur État démocratique pour tous les citoyens palestiniens, tout en répétant les appels des organisateurs à une intifada mondiale.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.